Il est 20h, vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur le 107.3 de Radio Alpa. Je vous souhaite la bienvenue dans Vertige.
On va s'écouter le morceau qui s'appelle Morning Time de Jake Lionheart tout de suite dans l'épisode 34 de la saison 18 de La Carotte. Et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Higher Place dans une version alternative de celle qui figure sur l'album Wild Flowers de Tom Petty et que l'on trouve sur une édition deluxe 9 en tirage limité paru en mai parmi 15 autres prises alternatives.
Vous venez d'écouter Stab de Bratmobile dans l'émission I Love Rock'n'Roll, une émission consacrée cette semaine au premier groupe fondateur du Riot Girl.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech2 7.2 sur Radio Alpa, une émission consacrée aux acteurs et aux artistes de la scène locale.
Il est 22h passé, c'est l'émission des musiques de l'extrême, ça s'appelle Schizophrénia et ça commence dans quelques secondes.
C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock, une émission réalisée cette semaine par Bob FM, Radio Ferrarock à Limoges, Radio Alpa, Radio Ferrarock au Mans, RCV 99 FM, Radio Ferrarock à Lille.
Bonsoir à tout le monde sur Radio Alpa 107.3, la meilleure radio du monde.
Radio Alpa, la radio des musiques actuelles et indées en Sarthe. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Adèle à la technique, Nicolas à l'animation. Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver après 3 semaines d'absence en direct sur Radio Alpa 107.3 FM pour une 5e émission du débat. Ce soir, nous débattrons du sujet suivant, la politique sociale du quinquennat Macron, quel bilan et quelles perspectives pour 2022. Pour débattre de ce sujet, ce soir j'accueille Madame Oriane Rezé-Duclos, référente La République En Marche en Sarthe. Bonsoir Madame Rezé-Duclos.
Bonsoir, merci.
Monsieur Yves Calipe, adjoint à la Ville du Mans, délégué aux politiques de solidarité et d'action sociale et conseiller départemental en Sarthe. Bonsoir monsieur Calipe.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Si la campagne présidentielle se concentre pour l'instant sur la sécurité et l'immigration, les thèmes que les Françaises et Français cite comme prioritaires sont le pouvoir d'achat, le chômage et la santé. Autant vous dire des sujets socio-économiques. Alors, à ce niveau, on peut se demander si nos impétrants à la présidentielle sont déconnectés. Je pose la question, vous vous ferez votre réponse. La campagne présidentielle va être essentielle pour interroger les candidates et les candidats à la fonction suprême sur leur vision sociale du pays. Cependant, avant la présidentielle, il est peut-être nécessaire de faire le bilan de la politique sociale du quinquennat Macron. À ce sujet, nous évoquerons différents thèmes. Dans un premier temps, nous tenterons, avec nos invités, d'esquisser un bilan sur deux sujets. Le pouvoir d'achat, qui sont les gagnants et les perdants de ce quinquennat. Je vous invite d'ailleurs à lire sur ce sujet l'excellent rapport publié par l'Institut des politiques publiques et paru dans Le Monde du 17 novembre 2021. Le second sujet que nous aborderons sera celui de la lutte contre les inégalités économiques et sociales. À cet effet, les réformes fiscales et sociales mises en place par les gouvernements successifs ont, selon l'INSEE en 2020, je cite, nettement augmenté les inégalités socio-économiques. Nous demanderons à nos invités s'ils sont d'accord sur ce constat. Après avoir débattu de ces deux sujets, nous proposerons à nos invités de discuter sur des réformes en ces matières en vue de 2022. Dans un premier temps, nous débattrons du revenu universel d'existence, sujet mis en avant par Benoît Hamon lors de la présidentielle de 2017. Puis, dans un second temps, nous proposerons à nos invités s'ils ont des idées de réformes en matière sociale. En conclusion, j'espère que lors de cette émission, nous vous aurons aidé à y comprendre un peu mieux sur ces questions, alors que nous célébrons les 3 ans des Gilets jaunes. Ce mouvement n'était-il qu'un feu de paille momentané ou les prémices d'un mouvement social de plus grande ampleur au regard des tendances économiques futures qui ne sont pas franchement réjouissantes ? Madame Rezé-Duclos, monsieur Calipe, premier sujet, le pouvoir d'achat, qui sont les gagnants et les perdants du quinquennat ? Peut-être Monsieur Calipe, pour commencer ?
Si vous voulez. Je pense que les perdants, c'est l'ensemble des gens, enfin des ouvriers, des salariés d'une façon générale, qui, par rapport aux heures de travail, par rapport à la production, ne retrouvent pas des salaires leur permettant d'avoir une vie décente et de pouvoir amener à bien les projets familiaux qu'ils ont. C'est la première chose. Mais le pouvoir d'achat, ça passe aussi par un certain nombre de dépenses qui sont autour, quoi. Je pense qu'il y a un thème qui devrait aussi nous aider dans le pouvoir d'achat, c'est la politique de formation. C'est-à-dire qu'il faut une politique de formation beaucoup plus importante que celle qui existe. Et depuis très longtemps, hein, c'est pas pour permettre aux gens de se former, d'acquérir des connaissances et des compétences pour leur permettre d'évoluer dans les métiers qu'ils pratiquent, dans les entreprises. Voilà, ça c'est aussi important. Et puis le pouvoir d'achat, il se mesure aussi à quelle capacité mes ressources me permettent de consommer. Parce qu'il y a des biens de consommation qui ont augmenté, et ce qui freine évidemment la consommation des ménages en tant que tel. Les ménages font des priorités. Et je pense que la vie les oblige à faire des priorités sur l'alimentaire, sur un certain nombre de choses comme ça. Et donc, de mon point de vue, c'est un ensemble qui pose le pouvoir d'achat, et ne pas uniquement le prendre par le biais du salaire, parce que ça serait insuffisant, c'est-à-dire y compris les prestations sociales, voilà. Et le parcours du combattant pour avoir accès à ces prestations sociales. Donc je pense qu'il y a un tout, et qu'une véritable politique et réforme de l'ensemble de ce que compose un pouvoir d'achat me semble important. Et puis bon, en termes de demandeurs d'emploi, c'est pareil, que c'est difficile. Ceux qui touchent le RSA, pareil, pour avoir accès au RSA, c'est pas aussi simple que ça. Enfin bon, un certain nombre de choses comme ça. Je pense que c'est vraiment un ensemble sur lequel... voilà. Et donc les perdants, je pense qu'effectivement, c'est les bas salaires. Voilà. Après, je pourrais vous faire le coup du cliché, les riches s'enrichissent encore plus. Mais quand on a dit ça, on ne fait pas vraiment avancer les choses. Donc vraiment, c'est sur tous les gens qui travaillent.
Madame Rosée Duclos, après cette introduction de M. Calipe, une réponse peut-être ?
Je vais apporter quelques précisions, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites à destination des plus bas salaires, et on voit que dans tout ce qui a été fait pour le pouvoir d'achat, je rappelle quand même que le pouvoir d'achat, l'INSEE a sorti le chiffre il y a peu de temps, il a augmenté de 8% en 5 ans, c'est considérable, mais il y a quand même aussi beaucoup de ces mesures-là qui s'adressent en priorité au plus bas salaire. Il y a l'augmentation de la prime d'activité, il y a la défiscalisation des heures supplémentaires, il y a la suppression de la taxe d'habitation qui s'adresse dans un premier temps aux personnes avec les revenus les plus faibles. On peut rajouter à ça l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, et on peut juste terminer par la plus récente, l'aide inflation, l'indemnité inflation qui va être réservée aux plus bas salaires. Donc c'est vrai qu'on a vraiment aussi concentré nos politiques là-dessus, et c'était justifié, je pense, mais je partage pas cette analyse du coup.
Mais alors, qu'est-ce que vous avez à répondre justement au fameux rapport qui est sorti, qui est dans Le Monde de mercredi dernier, qui dit que le dernier centile des Français les moins aisés, entre guillemets, sont les perdants du quinquennat, entre guillemets. Alors, je ne veux pas mettre tout sur la table, mais la réforme des APL, par exemple, la réforme des APL, notamment, un avis sur cette question ? Enfin, est-ce que c'est pas une...
Alors, ça doit nous alerter, c'est évident, et je pense qu'il faut qu'on continue nos efforts. Il y a aussi un certain nombre d'autres indicateurs qui ont tendance à pas dire tout à fait la même chose. Par exemple, il y a un indicateur de l'INSEE qui nous dit que les 10% de Français les plus pauvres sont ceux qui ont le plus bénéficié des mesures qui ont été prises pendant la crise Covid. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des indicateurs qui ont montré une augmentation des inégalités, Oui, c'est ça. Après, voilà, je pense que ces indicateurs, il faut y être très vigilant. On ne va pas les mettre sous le tapis en se disant « l'étude s'est trompée, l'IPP s'est trompée ». Évidemment que non. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant et qu'on voit où est-ce qu'on peut corriger le tir. Mais on a aussi des indicateurs qui sont plutôt encourageants, surtout sur les dernières mesures qui ont été prises. Là, je parle de celles qui ont été prises pendant la crise. Et effectivement, celles-ci sont plutôt encourageantes. Donc, je pense qu'il y a eu un tir qui a été un petit peu corrigé à ce moment-là.
Monsieur Calipe, une réponse ?
Oui, mais vous parlez de 8%, mais c'est 8%, c'est une moyenne. Mais il y a une partie de la population qui n'est pas concernée par les 8%. Tous ceux qui sont, par exemple, des mi-temps, des 80%, des à temps incomplet, voilà. Ceux-là, ils ne sont pas concernés par les 8% d'augmentation. Donc il y a bien une frange de la population qui n'a pas bénéficié de l'ensemble des mesures prises par le gouvernement actuel. c'est ça. Et donc, les gens ont vraiment l'impression, et c'est pas qu'une impression, quand ils vont au supermarché, ils se rendent compte qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent plus avoir accès parce que le coût est trop important par rapport à leur budget. Donc, franchement, il y a un manque. Enfin, vous êtes comme moi, vous travaillez sur, dans les quartiers. Moi, je suis élu du canton Le Mans 5, où il y a les Sablons, les Bruyères. Je peux vous assurer que les personnes qui habitent là, elles n'ont pas l'impression qu'il y a eu 8% d'augmentation. Donc voilà. Et comment eux, ils abordent ça en termes de consommation, de quelles réponses ils peuvent avoir par rapport à leur famille en termes, y compris d'instruction, mais d'accès à la culture, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, bah, ils se sentent exclus et pour une grande partie, ils le sont. La baisse les APL, oui. Mais après, les bailleurs, comment ils s'y retrouvent. Enfin, je veux dire que le pouvoir d'achat, c'est pour ça que je disais ça en introduction, le pouvoir d'achat, c'est un tout. Il y a la partie salaire ou la partie prestation familiale, mais pas que. C'est vraiment un tout. Il y a les ressources, il y a le salaire, il y a les prestations, il y a l'indemnité chômage en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et tout n'est pas accessible pour cette population. Donc il faut vraiment travailler sur le pouvoir d'achat dans sa globalité. Voilà, moi je semble important.
Notamment, Madame Rosier-Duclos, vous faisiez l'inventaire des réformes qui ont été proposées, primes d'activité.
Oui, l'inventaire pas exhaustif.
On a l'impression que les réformes pour le pouvoir d'achat ont été faites pour les salariés. Et là, on a une réforme du chômage qui va être mise en place. Est-ce que vous n'avez pas peur de créer des trappes à pauvreté avec cette réforme du chômage, Madame Rosier-Duclos ?
Alors là, il y a deux réponses en une. La première, oui, effectivement, il y a une réforme de l'assurance chômage. L'objectif très clair, et ça, il est affiché depuis la campagne de 2016-2017 d'Emmanuel Macron, c'est qu'on veut revaloriser la valeur travail. On veut que la différence de revenus entre quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui travaille, elle soit nette, pour être très incitatif. Donc effectivement, cette réforme-là, elle a cet objectif-là. Par contre, cette réforme, elle n'est juste que si elle s'accompagne de mesures très fortes pour lutter contre le chômage. Et le chômage n'a jamais été aussi bas, depuis 13 ans, de mémoire. Donc effectivement, là, il faut vraiment qu'on ait des réformes structurelles qui soient aussi de manière à faire baisser le chômage pour pouvoir vraiment être très incitatif et pour pouvoir continuer cette lancée.
Monsieur Calip, une réponse ?
Oui, sur le chômage... une des questions, c'est le contenu de l'emploi qui est important. On entend aujourd'hui, c'est une réalité, les restaurateurs, tout ce qui est dans les métiers de bouche, enfin, restaurateurs, cafés, etc. Ça pose la question des conditions de travail, ça pose la question des horaires. Enfin, on regarde tous les mêmes reportages. Hein. Et puis aussi des salaires. Et donc, comment on peut inciter quelqu'un à aller travailler dans ces domaines s'il n'y a pas le salaire, s'il n'y a pas les conditions de travail, s'il n'y a pas un certain nombre de choses comme ça. Donc, il faut, vous dites, valoriser la valeur travail.
La valeur travail.
Il faut aussi valoriser le travail. Et puis, valoriser le travail et à l'arrivée... combien je vais toucher de salaire, de prestations, etc. C'est aussi ça qui est important. Si on fait que sur le travail, voilà, alors je vais pas vous faire, mais au bout de 8 heures de travail, au bout de 6 heures de travail, je travaille 2 heures gratuits. Comment je retrouve cette gratuité du travail que j'ai fourni? Il y a tout ça et c'est vraiment un tout. Et donc la réforme chômage, il faut qu'elle soit accompagnée de découvertes de métiers, d'amélioration des conditions de travail des métiers, le rôle de l'employeur. Et puis je disais d'entrée, je suis persuadé de ça, moi. C'est aussi cette formation pour pouvoir ramener les gens à découvrir un métier, à pouvoir changer de métier. Ce qu'on nous dit, c'est fini. Hein. Moi, je suis de la génération 40 ans dans la même entreprise. On nous explique que ça, c'est terminé. Alors, sûrement que c'est vrai, mais moi, je veux bien faire que 15 ans dans la même entreprise et dans le même métier, mais si je change de métier, quel accompagnement je vais avoir? Quelle formation je vais avoir? Est-ce que je vais avoir des ressources suffisantes pendant le montant de formation? Enfin, ça pose un certain nombre que ça.
Je vous en prie, monsieur Calipe. Je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que sur la revalorisation des conditions de travail, c'est pas du domaine du gouvernement. Par contre, moi, j'aimerais aborder un sujet avant qu'on termine ce premier thème, sur la notion des contrats aidés. Le gouvernement a supprimé les contrats aidés. Je pense que monsieur Calipe est un peu bien placé en tant que président du CAS, notamment pour en parler. Pourquoi cette réforme, si vous vouliez justement inciter au travail, alors que vous avez supprimé ces contrats aidés, qui permettaient justement un premier pas dans le milieu professionnel? Une réponse peut-être, madame?
C'est vrai, en même temps, il y a un autre dispositif là qu'on a mis en place, c'est le contrat engagement jeune, qui vient aussi un petit peu prendre la suite de ça, qui va s'adresser vraiment aux jeunes qui sont sans emploi et sans formation. L'objectif, c'est d'avoir 400 000 jeunes qui seront accompagnés sur l'année prochaine. Et là, c'est ce que je disais, on est à un taux de chômage qui est très bas, et en fait, les gens qui étaient les plus proches de l'emploi sont plutôt, pour la plupart, retournés vers l'emploi. Et là, les 6%, il y a quand même une partie de gens qui sont vraiment plus éloignés de l'emploi. Ou en tout cas, la proportion de gens très éloignés de l'emploi au chômage est plus importante. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec le contrat engagement jeune, en allant chercher des gens qui sont plus loin de l'emploi, de leur proposer un engagement d'un an, pendant lequel ils ont un engagement de 15 à 20 heures par semaine, contre rémunération. Alors, ça, c'est 500 euros minimum.
500 euros, ouais.
15 à 20 heures par semaine, c'est à quelque chose près un SMIC, mais c'est aussi une formation qui va pouvoir leur remettre le pied à l'étrier et les accompagner alors qu'ils étaient très loin de l'emploi. C'est vraiment de la dentelle, entre guillemets, pour les gens qui étaient plus éloignés.
Monsieur Calipe, une réponse très courte.
Très courte, oui.
On a le temps, mais on a beaucoup de thèmes.
C'est de l'accompagnement, voilà. Mais quand on donne 500 euros pour 15 ou 20 heures par semaine, ça pose aussi la question du logement, parce que de la qualité du logement, c'est autre chose que ça. 500 euros aujourd'hui, vous ne vivez pas avec.
Ah non, mais là, on parle de 500 euros à l'égard de jeunes qui n'avaient rien.
Oui, je suis d'accord. Oui, mais ce qui me gêne un peu, c'est cette notion. On dit aux jeunes, t'as rien, mais tu vas avoir 500 euros. Alors évidemment, 500 euros, c'est important. Mais de rien à 500 euros, d'accord. Mais comme j'ai 500 euros, j'ai des besoins que je voudrais, avec les 500 euros, pouvoir répondre aux besoins que j'ai. C'est le logement, c'est un certain nombre de choses comme ça. Et donc, c'est encore un blocage. Et puis après, moi, ce qui m'interpelle, c'est quel accompagnement réel on met dans ce cheminement. Quels sont les professionnels qui vont accompagner? Est-ce qu'on donne aussi à ceux qui vont accompagner les moyens pour bien accompagner le jeune? Ça pose ça, parce qu'on voit bien sur les stages en entreprise, ça pose du parrainage, de l'accompagnement. Bon, voilà. Est-ce qu'on donne aussi le moyen aux entreprises de bien accompagner, c'est-à-dire y compris de demander à un salarié de l'entreprise qui connaît bien, d'accompagner, donc donner du temps au salarié pour l'accompagnement, ce qui veut dire que si on donne du temps, sa réalité professionnelle, il ne va pas pouvoir l'accomplir. Donc c'est vraiment un tout. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on peut encore creuser.
Donc merci pour cette discussion sur ce premier sujet qui a un peu débordé du pouvoir d'achat. On a parlé formation des jeunes, non, mais c'est tout le plaisir du direct et du débat. Dans un deuxième temps, nous allons discuter de la lutte contre les inégalités sociales et économiques. On en avait déjà un peu parlé dans une émission précédente, mais sans aborder le fond du sujet. Votre position sur la lutte contre les inégalités, notamment économiques, du gouvernement Macron, une position, monsieur Calipe?
Je ne voudrais pas apparaître comme celui qui dit je ne suis pas du tout dans cette démarche, mais là aussi, la lutte contre les inégalités, c'est permettre à chacun d'avoir accès aux biens courants. Bon. Et la lutte contre les inégalités, c'est permettre à ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose de pouvoir avoir accès à ça. Et donc, cette lutte contre les inégalités, il ne suffit pas de la décréter, il faut la construire. Donc moi, j'attends les outils pour construire cette lutte contre les inégalités. J'ai écouté ce matin le rapport du Secours catholique. Les inégalités, il y en a, et elles se sont creusées, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ne mangent pas à leur faim, pour certains qui ne mangent pas du tout sur une journée, voire plus. C'est l'inégalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à l'alimentaire. C'est une véritable inégalité. Comment on fait ? Alors, il y a des choses qui ont été faites, notamment dans la période de la crise sanitaire, enfin le premier confinement entre autres, où il y a des choses qui ont été faites, mais c'est insuffisant. Donc c'est ça la lutte contre les inégalités. C'est aussi l'inégalité, c'est l'accès à l'emploi. On n'est pas les uns les autres pour accéder à l'emploi, on n'est pas tous égaux. Pour des raisons sociales, économiques, mais aussi pas de formation, en tous les cas. Voilà, il y a une époque, ça fait 13 anciens combattants, et je m'en excuse, ça ne veut pas dire que c'était bien, hein. Mais bon, il y avait des boulots qui étaient accessibles rapidement. Aujourd'hui, bah, ces boulots-là, ils n'existent plus, en tous les cas, on ne peut plus accéder rapidement. Donc comment on fait pour que ces inégalités, dès le départ, soient atténuées, voire supprimées, mais en tous les cas atténuées, pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses comme ça.
Alors, ce qui est intéressant, justement, Mme Rosé-Duclos, en 2017, le candidat Macron se dit... pour lutter contre les inégalités de destin. Et on s'est rendu compte, dans un dernier rapport dont je n'ai plus le nom, alors je ne pourrais pas vous citer la source, que finalement, le bilan du gouvernement avait été mauvais, entre guillemets, sur les inégalités de destin, mais par contre sur les inégalités de vie financière, plutôt positives. Un constat sur ça, et notamment en parlant, M. Calip a fait le point aussi, sur la suppression des repas à 1 euro dans les facultés. Pourquoi ? Donc deux questions en une, madame.
Alors, déjà, il y a un premier point sur lequel je voulais revenir, et ça va faire plaisir à monsieur Cali, puisque c'est lui qui en a parlé les deux premières fois, c'est la formation. Et je pense effectivement que la formation, c'est le premier pas vers les égalités de destin. C'est pouvoir offrir à tout le monde les mêmes chances dans la vie. Et il y a quelque chose qui a été mis en place et qui marche très bien. Là, dans les propositions gouvernementales, c'est le plan Un jeune, une solution. Et le plan Un jeune, une solution, par exemple, il y a quelque chose qui n'a pas suffisamment été mis en valeur, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir accéder à un emploi, à un stage. Effectivement, quand les parents ont un cercle social, ont un réseau, ont des collègues, c'est forcément plus facile de trouver un stage. Le piston, ça a toujours fonctionné. Le fait de pouvoir faire travailler son enfant l'été dans son entreprise... Et là, en fait, le plan Un jeune, une solution, il fait un petit peu le relais pour ces jeunes-là qui, justement, n'ont pas ce réseau-là, en fait. Et ça, c'est, je pense, un début pour pouvoir résoudre les inégalités de destin. Et la deuxième question, c'était les repas à 1 euro.
Les repas à 1 euro, pourquoi la suppression ?
Je ne sais pas.
Vous n'avez pas,
je n'ai pas la réponse.
Vous n'êtes pas dans le sérail des,
non,
des
j'aimerais,
décideurs.
Non, j'aimerais, ça me flatterait beaucoup, mais non, je n'ai pas l'explication.
En parlant, M. Calip a fait une référence, alors qui est un peu cliché, mais les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus nombreux. Comment on peut accepter ça, vous, en tant qu'homme de gauche, M. Calip ? Est-ce qu'il n'y a pas des réformes qui ont été faites et qui ont finalement favorisé ces inégalités économiques ?
Bah, déjà, dans un premier temps, première réponse, je crois que personne ne peut accepter, et personne n'accepte qu'il y ait des pauvres de plus en plus nombreux. Bon, la crise sanitaire est passée par là, ça a évidemment créé davantage de pauvreté. Ensuite, là aussi, c'est de mettre en place... alors, il y a des financements, il en faut d'autres. Mais moi, ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est pourquoi on ne met pas ça sur la table ? Il y a des collectivités, il faut donner aux moyens aussi aux collectivités d'avoir une possibilité d'intervention sur l'emploi, sur la lutte contre la pauvreté. Je vais vous donner un exemple. On parle d'emploi. Pourquoi dans le Ségur de la santé, les aides à domicile et les soins à domicile publics, c'est-à-dire n'ont pas été concernés par ça ? Aujourd'hui, on manque d'aides à domicile, on manque d'infirmiers, de doubis, de tout ça. Et un domaine que je connais bien, c'est le social et entre autres le CCAS. On a des aides à domicile qui n'ont pas été dans le Ségur, voilà, les soins à domicile non plus. Comment on fait alors que c'est 75 milliards qui sont générés par ce que font les CCS. Et donc, sur ces 75 milliards, il faudrait qu'on prenne pour se mettre au même niveau que... les aides à domicile privées ou associatifs à but non lucratif. Et donc, on n'est pas du tout sur le même niveau. Et donc, ça serait aux collectivités, pour la partie que je connais, CCS, de faire en sorte que, si bien qu'il y a une perdition, et on ne renvoie pas l'image comme quoi c'est un métier intéressant et qu'on l'a professionnalisé à juste titre. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui ça crée des inégalités, ça, par contre. Aujourd'hui, il y en a qui vont quitter le service public auprès de la personne Parce que dans le privé, ils vont peut-être trouver, enfin, en termes de salaire, mieux, bon, et, puisque c'est le salaire qui quitte. Ça crée de l'inégalité, et on entend, on veut lutter contre l'inégalité. Moi, ça, voilà. Là aussi, les formations. On a besoin de centres de formation pour les aides à domicile qu'on n'a pas. Alors, on a des associations, mais des interventions publiques, ce serait quand même intéressant.
Une réponse, Madame Rosé-Duclos, notamment sur les réformes fiscales et sur le constat de Monsieur Calipe sur les aides à domicile.
Alors, sur le constat des aides à domicile, effectivement, il y a eu un parti pris qui a été pris. C'est que les aides, les 183 euros de revalorisation, ils n'ont pas été déclenchés pour tout le monde au même moment. On sait qu'il y a quelques professions qui les touchent depuis plusieurs mois maintenant. Tout ce qui a trait au handicap commence à le toucher ce mois-ci seulement. Il y a eu un décalage, ça a été échelonné. Une fois de plus, je ne suis pas dans le secret des décisions et je ne sais pas pourquoi certains avant d'autres. Mais l'objectif, c'est bien de revaloriser tout le monde de ces 183 euros mensuels. Et le deuxième morceau de la question, j'ai perdu.
Sur les réformes fiscales qui ont engendré quand même, on a bien vu, encore une fois, je me réfère au rapport de l'IPP, qui estime que les 1% les plus riches, entre guillemets, ont gagné 4 500 euros sur une année fiscale. C'est-à-dire qu'on considère que les personnes qui sont à plus de 10 000 euros par mois ont gagné 4 500 euros sur une année. Donc on voit bien qu'il y a eu une fiscalité qui a été favorable à ces personnes-là, alors que dans le même temps, il y a eu des baisses d'aides sociales et tout ça. Donc comment vous expliquez ce constat, en fait ?
Mais je pense que la fiscalité, elle a été avantageuse pour tout le monde, en fait, avec la suppression de la taxe d'habitation, avec la baisse de l'impôt sur le revenu, la première tranche, donc celle qui concerne principalement les plus bas revenus. Là, si on regarde, si on prend juste la ville du Mans, on a 45 000 foyers qui ont été exonérés de presque 700 euros de taxe d'habitation en moyenne. En Sarthe, c'est 210 000 foyers qui ont économisé plus de 1 600 euros depuis le début du mandat, par le biais de la suppression de la taxe d'habitation. On ne peut pas dire que les réformes fiscales, elles n'ont pas été favorables aux personnes avec les plus bas revenus.
Merci pour cette réponse, Madame Rosé-Duclos. Une première pause musicale, je vous laisse imaginer le titre de la chanson. A tout de suite.
Excusez-moi, il y a un petit bug technique. On va retrouver tout de suite dans un instant la chanson choisie par Nicolas Besseau. Je laisse Nicolas prendre l'antenne un instant.
Les aléas du direct, mes chères auditrices et chers auditeurs. On a peut-être 30 secondes pour éventuellement une réponse de Monsieur Calipe sur la fiscalité, le constat qu'a fait Madame Rosé-Duclos.
C'est un constat, évidemment, qu'on peut tous constater. Enfin, c'est un constat qu'on peut constater, excusez-moi pour... c'est une réalité. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et ça pose aussi la question des financements, parce que plus on baisse les impôts, on a aussi des financements qui vont pas pouvoir être réalisés. Donc c'est tout sur ça, sur la baisse des impôts. J'ai toujours un peu. Moi, je suis plus pour un impôt vraiment en fonction des ressources du foyer, qui tiennent compte de tout ça. C'est-à-dire ceux qui gagnent très très bien leur vie, ceux qui gagnent un peu moins, voilà. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal, mais à titre personnel, avec la baisse des impôts, voilà.
Madame Rosé-Duclos, une réponse très courte pour qu'on puisse écouter notre chanson.
Oui, je fais très court, promis. Je comprends ce que vous dites sur la baisse des impôts, mais des fois, il faut avoir en tête que mettre beaucoup d'argent sur la table, par exemple par le biais d'une baisse d'impôts, ça peut être rentable par le long terme. Et j'ai un exemple très précis pour étayer ce que je suis en train de vous dire, c'est le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, l'argent a quand même mis énormément d'argent sur la table, et l'Institut des politiques publiques que tu citais tout à l'heure a sorti hier une analyse qui nous dit qu'on a perdu, on a évité la perte de 20 points de PIB. On a perdu 17% de PIB dans la bagarre avec le Covid. Les estimations prouvent que sans le quoi qu'il en coûte, on en aurait perdu 37. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une somme monumentale d'argent qui a été mise sur la table, mais qui, au final, est rentable avec des guillemets, puisqu'elle nous a permis de limiter la casse et d'avoir raccourci, alors c'est toujours la même étude qui le dit, on a raccourci la crise d'un an et trois mois. C'est-à-dire qu'on a mis un an et trois mois de moins avant de retrouver notre niveau d'avant-crise. Ce qui fait que cet argent-là, ça peut être considéré comme un investissement. Et je pense qu'on peut faire pareil avec une baisse d'impôt, de se dire que quelqu'un qui gagne du pouvoir d'achat, c'est quelqu'un qui consomme. C'est de l'argent qui va rentrer différemment par le biais de la TVA, par exemple. Ou c'est du chômage en moins. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il faut essayer de tout prendre en compte dans les calculs.
Merci Madame Rosé-Duclos. En espérant que la musique puisse repasser. À tout à l'heure. De retour à l'antenne après cette interlude musicale de Money Money de ABBA qui fait son retour d'ailleurs après 40 ans d'absence. Reprise de notre débat, après les constats, des propositions, des solutions. J'aimerais que nous débattions, M. Calip, Mme Rosé-Duclos, du revenu universel d'existence. Sujet qui, s'il en est depuis 5-6 ans, commence à émerger dans le débat public. M. Calip, première question, est-ce que vous êtes pour un revenu universel d'existence? Sans rentrer dans le détail de comment on fait, on y viendra plus tard.
Bah oui, je suis pour. Après, c'est on met quoi dedans? Voilà.
Madame Rosé-Duclos, même question.
D'instinct, non, je suis plutôt contre.
D'accord, très intéressant. Pourquoi?
Ah, moi, il faut que je détaille pour le coup?
Ah, pour le coup, oui, parce que Monsieur Calip va détailler après.
Alors, je suis plutôt contre, et le gouvernement et Emmanuel Macron, dans son programme, avait dit clairement aussi qu'il était plutôt contre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la valeur travail, et on veut être très incitatif sur le travail. On veut faire en sorte que tout le monde puisse avoir du travail, puisse s'émanciper par le travail, et ça ne nous paraît pas compatible avec un revenu universel.
Ok. Monsieur Calip, pourquoi vous êtes pour le revenu universel?
Moi, je crois qu'un revenu universel, ça, effectivement, ça permet. D'avoir les moyens et de pouvoir après rentrer dans le monde du travail, de cet accompagnement nécessaire. Il faut permettre à la population d'avoir un revenu leur permettant de vivre et puis de pouvoir avoir des projets, les concrétiser avec un genre de choses. Aujourd'hui, je pense que... Vous savez, il y a le RSA, alors vous êtes pour rien. C'est pas vous qui avez inventé le RSA.
Non.
Mais c'est un peu comme le RMI. Hein. C'était le revenu minimum par insertion. L'insertion, lui, il n'a pas été beaucoup développé. Le RSA, c'est... Il y a le A pour activité. Pareil, le A pour activité. avec un revenu universel, avec ce qu'on peut mettre dedans dans le contenu, permet à un grand nombre de citoyens d'avoir une rentrée de ressources, et à partir de là, pouvoir envisager l'avenir et s'intégrer dans une démarche de recherche d'emploi, de formation, d'acquérir des compétences, voilà. Et ça évite, me semble-t-il, la pauvreté. En tous les cas, la dégringolade vers la pauvreté. Je pense qu'à un moment donné, il y a une réflexion comme ça qu'il faut avoir.
Madame Rosé-Duclos, une réponse.
Alors justement, là, je vais revenir sur le contrat engagement jeune dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, ce système-là, on a décidé de le cibler sur... vraiment une population qui est loin de l'emploi, sans formation, sans emploi du coup. Et on a vraiment décidé de cibler cet accompagnement et cette dotation financière à des publics précaires. Mais on n'a pas l'intention que ce soit universel, parce qu'on estime que les accompagnements existent au-delà de ça.
De mémoire, le gouvernement s'était engagé, et ça doit être en place, un revenu d'activité, me semble-t-il, où il y avait une approche quand même de revenu universel ou de choses qui s'en approchaient, mais par le travail en fait. Il y avait un revenu qui était dégagé par une activité, par exemple. Alors, Brigitte Klinkert, ancienne présidente du Conseil général du Haut-Rhin, si je ne me trompe, avait mis en place le RSA en fonction d'heures de disponibilité d'insertion. Est-ce que vous seriez plutôt sur cette approche ?
Bah, je pense que c'est un truc qu'on a renommé en contrat engagement jeune. Hein.
Okay.
Parce qu'au final, là, le programme, donc ça peut être de la préparation, par exemple une préparation à l'apprentissage, ça peut être des missions d'utilité sociale, ça peut être des alternances. Donc je pense que cette chose-là à laquelle on n'avait pas vraiment donné de nom, c'est le contrat d'engagement jeune, justement.
Et alors, une deuxième question, est-ce que vous seriez... Bon, on a... Le RSA se rapproche d'un revenu universel, alors sachant qu'il y a la problématique de l'accès que M. Calip mettait en avant tout à l'heure, mais est-ce que vous estimez qu'un RSA pour une personne seule à 570 € est suffisant pour survivre aujourd'hui, Mme Rosé-Duclos ?
Non. Non, on est en dessous du seuil de pauvreté, clairement.
Alors pourquoi ne pas l'avoir augmenté et pourquoi ne pas l'avoir élargi aux 18-25 ans ? Et M. Calip répondra après.
Alors 18-25 ans, on part du principe que s'ils sont en emploi ou en formation, le problème se résout de lui-même. Et s'ils ne sont pas en emploi ou pas en formation, on a le contrat engagement jeune. Justement, on vient, je vais dire des rustines, c'est pas un mot qui est très joli, mais on vient vraiment pallier là où il y a précisément des besoins, plutôt que de généraliser ça et d'en faire un système universel.
Monsieur Calip, une réponse ?
Oui, on tourne un peu en rond sur revenu, engagement jeune, enfin revenu universel, engagement jeune, RSA. Je pense qu'il faut vraiment... une démarche et un dispositif, même si le mot, quelquefois, il peut faire peur et pas forcément joli, mais un dispositif pour que l'ensemble de la population puisse avoir les moyens de vivre et de pouvoir se projeter. Aujourd'hui, 560 €, c'est impossible, et pour une famille, c'est 850 en gros. Engager l'avenir avec 850 € pour une famille, c'est impossible. Voilà, moi j'ai entendu le président Macron dire, par rapport aux retraites, dire pas en dessous de 1 000 €. 1 000 € aujourd'hui, il y a une grande partie de la population qui est en dessous, et 1 000 €, vous avez du mal quand même à vivre correctement sur un mois. Donc, voilà. Et donc je pense qu'il y a franchement une démarche. Et il me semble aussi qu'il faut unifier un peu un certain nombre de dispositifs qui existent. Le RSA... l'engagement jeune, puis d'autres que ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut une véritable réflexion sur un revenu. C'est quoi ? Ça doit correspondre à quoi ? Alors, les scientifiques font ça très bien. Mais les uns les autres, on est confrontés à ça, on est capable de
vous le fixeriez à combien, ce revenu, M. Calip ?
Je pense qu'aujourd'hui, à moins de 1 300 € aujourd'hui, vous n'y arrivez pas, quoi. Alors, je sais que les revendications, elles sont à 1 800 €. Voire plus dans certains, par rapport à certaines organisations syndicales. Mais à 1 300 €, ça vous permet un peu d'asseoir, voilà, et le revenu d'un couple, il pourrait tourner à 2 800, 3 000 €, voilà. Mais je pense que dans ce domaine, il faut pas qu'on soit atteint de conjonctivisme, c'est-à-dire qu'on se frotte les yeux en disant on va faire comment. Il y a des choses qui existent. Et donc, il faut les développer et mettre... autour d'une table aussi, alors quand je dis autour d'une table, tous les acteurs, c'est-à-dire les départements ont un rôle aussi à jouer, les collectivités, les villes, les métropoles, voilà. Vraiment, il faut vraiment... Parce que c'est quand même un parcours du combattant, hein. Il y a les missions locales, il y a la NPE, enfin le... Là, bon, Comment on articule tout ça?
Il n'y avait pas eu une proposition de guichet unique?
Si.
Pour le coup, Madame Rosier Duclos,
il y a une proposition d'automatisation des aides. Effectivement, c'est pas encore en place, mais ça a été proposé. On espère que ça va pouvoir être fait, mais je pense que le Covid a retardé un petit peu le projet. Mais il y a eu une proposition, enfin, du gouvernement d'automatisation des aides, parce qu'effectivement, le renoncement aux aides, qui est très souvent involontaire d'ailleurs, il joue pas en faveur du pouvoir d'achat et notamment des plus précaires qui sont des fois pas forcément au fait de leurs droits, pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, pas forcément en capacité d'aller chercher l'information. Et effectivement, l'automatisation des aides, ça me paraît être une avancée cruciale. Après, je reviens sur ce que vous disiez, si on met un revenu universel à 1 300 € par mois, comment voulez-vous que les gens aillent travailler au SMIC? Enfin,
je vais me faire l'avocat du diable, Marianne Rosier Duclos. On a de plus en plus d'expérimentations sur le revenu universel en Finlande, en Allemagne, et même ça a été mené en Tanzanie, si je ne me trompe. Et on a constaté à l'issue de cette micro-expérimentation que le taux d'insertion des femmes sur le marché du travail en Tanzanie était supérieur, les remboursements des microcrédits étaient supérieurs, selon les théories de Janus. Et de plus, sur la valeur travail, si on fixe un minimum d'un revenu universel, ça va obliger les entreprises, si vous êtes en capacité de dire « je peux vivre sans votre activité pour le travail », ça va obliger les entrepreneurs et les entreprises à augmenter mécaniquement les salaires. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand vous dites « vous voulez valoriser et émanciper par le travail ». Est-ce que ce revenu universel-là ne serait peut-être pas une solution pour justement favoriser l'émancipation par le travail, l'activité, l'entrepreneuriat permettrait justement d'être développé par ce revenu universel? Vous n'êtes pas sur cette ligne-là?
Alors, je n'ai pas connaissance des expérimentations qui ont été menées, mais là, en l'état actuel des informations que j'ai, non, je pense que si on veut que les gens travaillent, il faut que le travail il leur apporte quelque chose. Et si on ne gagne pas plus d'argent en travaillant qu'en étant à la maison, bah, malheureusement, on est tous humains, hein. Surtout quand on parlait, là je reviens sur ce que M. Calib disait tout à l'heure, mais quand on a des métiers qui sont difficiles, avec des horaires difficiles, on parlait de la restauration, j'ai travaillé dans la restauration pendant des années et des années, les horaires de merde, je sais ce que c'est, le petit salaire, je sais ce que c'est, on va pas se mentir, si à un moment donné on gagne pas plus d'argent en travaillant qu'avec un revenu universel, il y a beaucoup de gens qui vont choisir la facilité. Moi, la première. Hein.
C'est un point de vue, mais c'est ce que démontrent les micro-expérimentations.
Je me pencherai sur la question.
Je vous réinviterai éventuellement peut-être pour en discuter. Monsieur Calip, une réponse très courte pour qu'on passe au dernier sujet.
Là aussi, je pense que cette idée de dire plus on va donner des ressources, moins les gens vont vouloir travailler. Après, c'est le contenu. Alors, j'ai dit 1 300 € parce que je pense qu'aujourd'hui, en dessous, on a du mal. Mais même si c'est inférieur à ça, c'est... Dans ce revenu, on met quoi pour qu'effectivement les gens ils puissent accéder à l'emploi? Ça veut dire faut mettre les chefs d'entreprise aussi autour de la table. C'est, ils proposent quoi? Comment? Sur quel délai? Voilà. Sur les métiers qui aujourd'hui trouvent pas de salariés, comment on améliore ces conditions de travail, d'horaire, certaines choses comme ça. C'est un tout. Je pense que franchement, c'est une réflexion qui doit mettre les politiques, les économiques, les organisations syndicales, les associatifs. Et moi, j'essaie d'avoir cette pratique. Et au centre, la personne concernée, quoi. Celle qui vit ça au quotidien, c'est la seule, me semble-t-il, qui est capable d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir la grande idée, et on a tous des grandes idées, pour trouver la solution. Mais qu'en pense celui qui est en recherche d'emploi? Qu'en pense l'usager du CCAS? Voilà. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi... Alors, le politique, il est fait pour prendre les décisions, ça, il les prend, mais il faut d'abord s'appuyer sur ceux qui sont dans la réalité du quotidien. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à articuler.
Merci pour cette réponse, M. Calip. On va passer dans un court instant au dernier thème de l'émission. Donc, dernier thème de l'émission, les propositions pour 2022. J'en ai une qui à vous proposer et vous allez me donner votre avis. On entend parler depuis quelques jours d'une réforme de la grande sécu. Qu'est-ce que c'est, Madame Rosier Duclos, la grande sécu, le projet qui est proposé, qu'on voit dans les médias depuis quelques jours, qui, je le rappelle, était une proposition de Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui propose justement que les mutuelles et les complémentaires soient réintégrés dans la branche de la sécu pour... faire cette grande sécu qui rembourserait mieux, qui coûterait moins parce qu'on gagnerait sur les dépenses de fonctionnement des mutuelles et des complémentaires. Votre avis, Madame Rosé Duclos, sur cette proposition ?
Là, d'instinct, pas d'avis. C'est pas le sujet que je connais le mieux pour le moment, donc en n'ayant pas suffisamment d'informations, je vais...
Monsieur Calipte, peut-être ?
Oh, je connais pas forcément bien, mais j'ai été militant mutualiste à une certaine époque. Mais c'est vrai que le système de santé aujourd'hui a besoin d'une grande réforme. Et qu'à un moment donné, réunir l'ensemble des acteurs, ça me semble nécessaire. Donc de remettre dans le même organisme tous ceux qui interviennent sur les remboursements, sur la prévention, sur le soin, ça me semble important. Après, je n'ai pas été regardé ce dont vous nous parlez.
Personne ne vous blâmera, M. Kelly.
Non, je ne le prends pas comme ça d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que c'est bon, effectivement, Jean-Luc Mélenchon l'avait proposé. Puis il y en a d'autres qui ont aussi fait des propositions en disant, mais après, il y a des freins. Et l'histoire de la mutualité, c'est un des freins. D'avoir exclu en 40, je vous donne la date, il faut vérifier, mais dans les 46 après-guerre, les agriculteurs, voilà,
c'est
les commerçants.
C'est un régime spécial, effectivement. On veut tout, enfin, beaucoup de gens, quel que soit le bord politique, enfin, d'un certain plus que de l'autre, parlent de suppression des régimes spéciaux. Par contre, cette réforme-là, personne n'a jamais eu le courage de la faire. Mais au-delà de cette réforme de la grande sécu, Madame Rosé Duclos, est-ce que vous avez en exclusivité, peut-être, ou déjà, vous réfléchissez à La République En Marche, même si l'impétrant n'est pas encore candidat, à des idées de réforme sur le social?
Alors, je vais vous décevoir, mais donc, ça ne vous a pas échappé qu'on n'a pas encore officiellement de candidat. On a un candidat très, très officieux et très espéré et très attendu, mais on n'a pas de candidat officiel. Donc, le programme non plus, et malheureusement, n'étant pas dans le secret des dieux, je ne peux pas vous envoyer de scoop là tout de suite.
Et pour vous, alors, est-ce qu'il y aurait des propositions de réforme à faire en matière sociale ?
Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à avancer dans le sens où on est. Après, comme je vous disais, s'il y a des indicateurs qui sont négatifs, comme ceux que vous avez cités tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on retravaille dessus. C'est vraiment la philosophie qu'a le gouvernement depuis 5 ans. Je prends l'exemple, par exemple, de la loi Egalim, où la première mouture n'était pas aussi efficace que ce qu'on l'a espéré. On en a fait une deuxième. Et je pense que cet état d'esprit-là, il faut qu'on continue à l'avoir, et d'autant plus sur tout ce qui touche le pouvoir d'achat, où on va avoir des points à améliorer. Mais je pense que les deux points, de toute façon, sur lesquels il va falloir qu'on continue à se battre, c'est le pouvoir d'achat et la baisse du chômage.
Monsieur Calip, une réponse, et peut-être vous, au niveau de votre sensibilité communiste, peut-être avez-vous des propositions à faire ? Comme ça, qui vous viennent, des choses que vous aimeriez faire depuis des années et qui n'ont pas été en place parce que les gouvernements n'étaient pas de votre majorité, peut-être. Mais vous, personnellement ?
Personnellement, je pense qu'il faut vraiment travailler sur le niveau de ressources, le niveau des formations pour permettre à chacun de s'y retrouver. Et je ne dis pas que la formation, c'est la panacée, parce que ça serait trop facile. Il y en a qui ont essayé ça depuis longtemps, en disant « on met de la formation, on va trouver la solution ». Ce n'est pas ça, mais c'est un tout. Voilà. Et puis moi, je pense que sur le social en tant que tel, c'est-à-dire tous les exclus, parce qu'il y en a quand même un grand nombre, c'est comment on les aide à ne plus à sortir de cette exclusion, de cette pauvreté. C'est-à-dire qu'on apporte les uns et les autres... Bon, un domaine que je connais bien, sur le social, par exemple sur l'aide alimentaire. On voit bien tous les intervenants pour apporter de l'alimentaire aux familles. Mais concrètement, la solution, c'est quand même de permettre aux familles d'aller faire leurs courses elles-mêmes. Vraiment. Première chose. Deuxième chose, quand vous avez des problèmes pour payer votre loyer... Je connais un grand nombre de personnes, ils ont un problème, donc ils payent leur loyer, mais ils n'ont pas grand-chose à mettre dans l'assiette de leur môme, en termes de fringues, voilà. Et puis alors, sur le reste, sur l'accès au sport, à la culture, ça n'existe pas.
Oui, c'est vrai.
La priorité, c'est...
Le pass sport et le pass culture ?
Oui, oui, non, mais, d'accord. Mais je veux dire que les usagers du CCS, entre autres, leur première préoccupation, c'est pas...
Oui, bien sûr, voilà. Mais les dispositifs...
Donc il faut quand même... Ces dispositifs, il faut les élargir, qu'ils soient accessibles à tous. Voilà, mais ça passe d'abord par réellement le pouvoir d'achat. Après, on parle de personnes isolées. Alors
par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réforme sur le pouvoir d'achat, M. Calip ou Mme Rosé Duclos ? qu'est-ce qu'on fait? On peut pas augmenter de rechef. Enfin, par exemple, le gouvernement n'a pas voulu donner de coup de pouce au SMIC depuis quelques années. Pourquoi, justement, ça pourrait être une solution?
Ça pourrait être une solution. Après, là, on sort quand même d'une crise qui a été assez violente. Si on veut continuer de protéger les entreprises, je pense que c'est important. Par contre, il y a quelque chose dont on a parlé très succinctement, c'est l'indemnité inflation qu'on a mis en place et qui d'ailleurs vient d'être retoquée par le Sénat à la majorité LR avec l'abstention de la gauche.
Oui, mais les arguments des Républicains, justement, c'était une question que je voulais évoquer, Madame Rosé Duclos, si vous me permettez. Les raisons pour lesquelles les Républicains, donc ils ne sont ni de mon obédience et je n'ai pas à les soutenir ou pas, mais les arguments utilisés par le président du groupe, M. Retailleau, disaient qu'en fait, on a fait du saupoudrage. On a envoyé 3,6 milliards comme ça, à la volée, pour dire en dessous de 2 000 euros, mais si vous êtes une infirmière qui gagne 2 500 euros, vous n'êtes pas dans le système. Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de faire un truc très généralisé qui finalement n'aura pas d'efficience et qui en plus va être retoqué au niveau du Sénat, peut-être que ça repassera à l'Assemblée nationale, et en même temps qui ne serait pas versé avant février? Les employeurs vont devoir le verser, Pôle emploi va le verser. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir créé une usine à gaz sous la pression potentielle des citoyennes et des citoyens?
Si ça peut apporter 100 euros de pouvoir d'achat à un salarié, je pense que ça vaut peut-être le coup de faire une usine à gaz. Alors après, effectivement, la question de la tranche à 2000 euros, bah peut-être qu'on n'a pas vocation à aider au-delà, on ne va pas se mentir. Enfin, c'est le jeu de la tranche. Hein. À partir d'un certain moment, on considère que les gens n'ont pas besoin de ce coup de pouce de l'État. On monte déjà jusqu'à 2000 euros net. C'est quand même relativement conséquent, je trouve. Mais cette indemnité inflation, les arguments qu'on utilisait, pour moi, ne sont pas forcément valables. Je vois qu'il y a un argument qui a été utilisé aussi beaucoup, de dire « oui, mais on pourrait juste baisser les taxes ». Mais si on baisse les taxes, on n'est pas sûr que ça va être répercuté à la pompe. Enfin...
Merci pour cette défense de l'indemnité inflation. Monsieur Calip, une réponse très courte sur justement cette indemnité inflation. Est-ce que ça vous paraît suffisant, vu en plus les tendances économiques, notamment l'inflation qui remonte?
Ouais, ma réponse courte, non, c'est insuffisant. C'est insuffisant, 100 euros, évidemment, quand ça tombe, ça fait du bien. Mais pour combien de temps? Et puis ça va me permettre de me sortir un peu de la difficulté. Pendant combien de temps? Moi, les 100 euros, je pense que l'augmentation du SMIC aurait été beaucoup plus efficace. L'augmentation du SMIC, le RSA, c'est beaucoup plus efficace.
On oublie quand même une grande partie des gens. C'est-à-dire que là, cette indemnité aux inflations, elle touche aussi les étudiants, elle touche aussi les retraités. Elle touche les temps partiels, les temps pleins. Là, il y a beaucoup de gens. Si on avait, par exemple, je sais qu'un des arguments qui a été proposé au Sénat hier, c'était d'augmenter la prime d'activité. Bah oui, mais on oublie plein de gens du dispositif. Alors que là, cette indemnité inflation, elle est extrêmement large.
Ok, merci pour ce débat, Monsieur Calip, Madame Rosé Duclos. On se quitte en musique. Je tiens à remercier Adèle pour la première émission que j'anime avec elle. Je remercie mes invités, Madame Rosé Duclos, Monsieur Calip. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un débat sur les mobilités. J'aurai comme invité monsieur le député Damien Pichereau et monsieur le conseiller municipal Ludovic Bu. Je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine. Au revoir les auditrices et les auditeurs. Ciao.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.